Philosophe, la série de France Inter consacrée aux révolutionnaires de la pensée, toujours en compagnie du philosophe Frédéric Worms, directeur de l'École normale supérieure. Deuxième moment autour de Simone Veil, de la philosophe Simone Veil, l'amour. La philosophie de Simone Veil accorde une place centrale à l'amour. C'est une pensée qui est largement inspirée de Platon, vous allez nous dire pourquoi, mais qu'est-ce que ça veut dire que cet amour-là? C'est l'idée d'un amour que chacun lui-même recherche, l'amour du bien. D'où ça vient?
Alors, ça vient de l'expérience, évidemment, humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est Simone Veil, elle n'est pas syncrétique.
Elle n'est pas syncrétique.
Non, elle a une philosophie extrêmement précise. Et c'est la philosophie de Simone Veil, et de personne d'autre. C'est pour ça qu'effectivement, il fallait lui consacrer cette discussion.
Elle n'est pas systématique.
Si, elle est systématique. Elle a une pensée très précise et complète, mais pas faite de briques et de brocs, où elle réconcilierait comme ça le malheur, l'amour, en vrac, en quelque sorte. Non, il y a une pensée...
Les opposés, les choses contradictoires.
Elle réconcilie les opposés, mais sous un signe très précis et commun à ces opposés, qui est l'expérience de quelque chose qui s'impose à nous comme une nécessité. Le malheur s'impose à nous. C'est-à-dire au sens où, voilà, une pierre ou même une bombe tombe sur votre maison, toute votre famille est détruite. C'est le malheur. Ça détruit non seulement un objet, mais votre âme. Et vous n'êtes pas capable d'ailleurs d'y résister. Et c'est tellement douloureux d'ailleurs que ça produit la répulsion des autres qui ont beaucoup de mal à venir à votre secours.
C'est ce qui définit le malheur.
Le malheur est toujours physique, psychique et social. Toujours. Ça peut partir du social, vous serez aussi physiquement pauvre et psychiquement en détresse et inversement. Du coup, le malheur est une expérience extrême, mais l'amour aussi. Pourquoi ? Parce que notre âme désire quelque chose qui réponde entièrement à ses attentes. C'est oui. Ça l'amour, c'est viser un bien. Et c'est vrai que Platon l'a défini en tout cas formellement par l'idée de bien, c'est-à-dire nous ne cherchons pas seulement tel ou tel plaisir, nous cherchons un bien absolu qui nous comble. On pourrait dire de bonheur, mais c'est plus que le bonheur, puisque c'est pas seulement le hasard, c'est traduit par l'expérience de la vérité, de la beauté du monde.
C'est ce qui peut nous combler. Autrement dit, ce n'est pas l'amour de telle ou telle personne, l'amour de telle ou telle chose, c'est autre chose.
Et du coup, dans le grand texte qui s'appelle L'amour de Dieu et le malheur, elle montre que ne serait-ce que pour soigner, aider, on a beaucoup travaillé avec des amis sur le soin, on a essayé de penser le soin sur le modèle de ce texte, pour soigner quelqu'un qui est dans le malheur, il faut se dépasser soi-même, et c'est très difficile, on a de la répulsion. Aller aider un clochard, c'est pas évident. Il faut s'enraciner dans un amour plus fort que ce malheur, et c'est forcément, selon elle, le signe que le malheur lui-même est pris dans un amour.
Expliquez-nous
qui
ça.
Qui fait que le malheur est encore, dit-elle, une relation avec le monde, et en fait avec ce qu'elle appelle Dieu. Et donc il y a un bien transcendant, et donc il y a un Dieu qui explique pourquoi nous pouvons avoir un amour qui résiste au malheur.
Alors reprenons le fil, justement.
Et ça va si loin que pour elle, quelqu'un qui n'a pas connu cet amour-là, ne serait-ce que dans une forme de l'amour humain, qui n'a pas rencontré quelqu'un de bon,
oui,
ou qui n'a pas été aimé, ou qui n'a pas fait l'expérience de l'amour chrétien, selon elle, et de la beauté du monde, ne pourra pas résister au malheur. Et donc, il y a une vraie lucidité de Simone Veil. L'amour ne sauvera pas le malheur à tous les coups. Il faut avoir fait l'expérience de l'amour vrai pour résister au malheur absolu.
Reprenons le fil de cette question de l'amour. Je disais que avant même le christianisme, elle a emprunté à Platon une idée qui vient du grec métaxu, traduction intermédiaire. C'est l'idée que ce qui sépare peut aussi relier, comme s'il fallait, au centre de la pensée, jeter ou construire des ponts. Il ne faut priver aucun être humain de ses intermédiaires, de ses métaxus, le foyer, la patrie, la culture, la beauté.
Oui, la vérité mathématique aussi, hein, c'est-à-dire le fait que, par exemple, au-delà des cercles imparfaits que nous dessinons, il y a une définition pure du cercle.
Oui.
La définition pure du cercle, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance d'un même point. Mais c'est vrai, vous prenez un point, et si vous prenez tous les points qui sont à la même distance, vous aurez tous les rayons d'un cercle. Bon, pour elle, ces définitions qui ont une forme de perfection sont le signe que l'humain ne décide pas de tout, est en relation avec quelque chose qui s'impose à lui, et c'est très platonicien, bien sûr. Il y a quelque chose de transcendant qui se révèle dans certaines expériences et qui nous comble de bonheur. Donc nous faisons une expérience du bien. Mais justement, même pour revenir à la patrie, en elle-même, c'est pas la patrie, c'est la patrie comme signe d'un ordre du monde qui fait que le collectif humain a des valeurs qui le dépassent aussi. Hein, et donc, d'une certaine façon, l'expérience de cette transcendance, qui est platonicienne, reste profondément humaine chez Simone Veil, destructible. Ce qu'elle ajoute à Platon, c'est que cette expérience du bien est vulnérable.
la recherche de l'amour, c'est la recherche de l'unité, l'unité avec l'autre.
C'est même un peu plus parce que c'est moi c'est là que j'y résiste un peu comme Camus là aussi qui disait une autre phrase célèbre de Camus c'est Simone Veil me gouverne mais ne me convertit pas. Et je pense que effectivement pour Simone Veil d'une certaine façon il y a une expérience de l'unité qui passe par la destruction des faux intermédiaires. Le bon intermédiaire suppose la destruction des faux intermédiaires et dans ces faux intermédiaires il y a les idoles de la société comme elle dit les aliénations sociales.
Exemple.
Et les aliénations psychologiques, il y a le moi. Il y a l'égoïsme, l'amour propre. Votre amour propre, c'est un peu comme chez Rousseau, vous sépare de l'amour tout court. Donc il y a aussi chez Simone Veil une tendance pascalienne, aussi à la critique du moi. Le moi est haïssable. Et donc c'est la décréation de soi. Comme
c'est-à-dire qu'on se libère parce qu'on renonce à soi-même. On renonce à être un je, J-E. C'est ce qu'on appelle le don de soi. Est-ce que ça a un lien justement avec l'idée que l'amour de l'autre, c'est la compassion, c'est vouloir partager la souffrance de notre prochain. Je la cite, Simone Veil, « L'amour chez celui qui est heureux est de vouloir partager la souffrance de l'aimé malheureux. » C'est magnifique.
Tout à fait. C'est vraiment cette idée que, en fait, il ne faut pas se payer de mots, il ne faut pas être dans la demi-mesure. Nous pouvons être malheureux nous-mêmes, détruits. Nous pouvons être tellement détruits que nous ne sommes plus capables de compassion. Nous pouvons être dans l'amour heureux, évidemment. Cet amour heureux nous permet en effet la compassion avec le malheur de l'autre. Mais encore une fois, c'est un amour qui a des conditions et qui s'entretient par la société. Il faut que chacun d'entre nous ait accès à un peu de vérité, un peu de beauté, n'ait pas été détruit par un ordre social. Autrement dit, cet amour n'est pas une capacité magique. Il a des conditions, y compris sociales et politiques, et certaines sociétés font tout pour le détruire.
Oui.
Donc il est fragile. C'est ça la grande nouveauté de Simone Veil, c'est l'absolu fragile au XXe siècle.
D'autant que la plus grande illusion d'optique pour l'homme, pour nous, Frédéric Worms, consiste à croire qu'on se situe au centre du monde, justement. Il faut se vider de sa fausse divinité, se nier soi-même, écrit-elle, renoncer à être en imagination le centre du monde, discerner tous les points du monde comme étant des centres au même titre, et le véritable centre comme étant hors du monde.
C'est là que j'y résiste un tout petit peu, parce que j'ai une vision à titre personnel, c'est pas intéressant ici, mais plus relationnelle des choses. Et d'ailleurs, je la trouve aussi chez Simone Veil, puisque d'une certaine façon, l'absolu fragile,
oui.
Ça veut dire que pour rester capable d'empathie avec l'autre, pour rester capable d'amour, il faut aussi un peu avoir été aimé soi-même. Il faut être un soi pour être capable d'aller vers le soi de l'autre. Et je pense que dans sa vision à elle, en réalité, il faut être plutôt dans deux expériences radicalement opposées de l'altérité. C'est-à-dire le malheur et l'amour, la force et la justice. Mais le rapport à soi, elle le critique en effet, à mon avis, trop. Et elle va, à mon avis, enfin voilà, moi, c'est, on peut aussi dire par où on y résiste. Hein, mais
bien
moi,
sûr.
Je la, c'est une manière infiniment, de la comprendre. Elle m'oriente depuis toujours. Je pense quand même que sur ce point, un peu comme Lévinas, qui est le grand penseur d'autrui,
oui.
Mais pour être dévoué à autrui, encore faut-il exister soi-même.
Et l'amour de Dieu ?
C'est la même chose. C'est-à-dire que je pense que ce qu'elle appelle amour de Dieu, nous en avons besoin, c'est l'amour du bien. C'est
ça répond à la question du bien chez Simone Veil.
Oui, ça y répond dans une expérience qui n'est plus seulement une expérience, disons, anonyme.
Ou théorique.
La vérité et la beauté, c'est quand même une expérience personnelle chez elle. Elle décrit dans un poème, elle passe de la nécessité positive du monde, de Spinoza et Platon, dans sa première période, à la souffrance du Christ sur le mont des Oliviers. Dont le malheur est « Pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Pourquoi toi m'as-tu abandonné ?» C'est-à-dire le malheur est encore un lien avec quelqu'un. Et de ce point de vue, l'abandon est encore une relation. Et même la preuve d'une relation. Si quand je souffre, j'en appelle à quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un. Même s'il m'a trahi, c'est encore la preuve d'un lien. C'est là qu'elle est géniale, évidemment, et pour moi, c'est la preuve de sa vérité, mais à titre personnel, là aussi, et on y a travaillé avec un groupe, encore une fois, sur la question comment transposer l'amour de Dieu dans l'amour humain. Moi, je pense qu'en fait, cet amour absolu, nous en faisons l'expérience entre nous, Ali Badou, pas entre nous deux personnellement dans cette conversation, mais
oui,
on a
sûr.
Eu des autres humains qui nous ont permis d'aimer. Peut-être que l'amour de Dieu peut être pensé comme amour humain. En tout cas, elle a pensé la nécessité de l'amour, on pourrait dire. La nécessité de l'amour et pas seulement l'amour de la nécessité.
La nécessité de l'amour, pourquoi le Christ ? que fait cette femme d'origine juive de sa judéité? Pourquoi se tourner vers le Christ à ce moment de sa vie? Et pourquoi lire les platoniciens, par exemple, Platon lui-même, comme des précurseurs, des préfigurateurs de ce que pourra offrir le christianisme?
Alors, il y a deux facettes. Il y a une facette d'une profondeur inouïe dans sa rencontre avec le christianisme et le Christ, comme figure de l'être qui a maintenu l'amour de Dieu dans l'expérience du malheur universel et de l'esclavage et de la souffrance. Hein. C'est, encore une fois, le mont des Oliviers. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, effectivement, au lieu de faire comme Bergson, qui fait le même mouvement à la même époque, c'est-à-dire de trouver dans le christianisme une philosophie du malheur et de l'amour, dont il y aurait des traces dans toutes les autres religions, elle dit c'est la seule, et elle trouve que la religion de l'Ancien Testament est une religion encore nationale. Elle reprend des préjugés antisémites de son époque, et même quand elle refuse de se convertir, elle écrit cette lettre extraordinaire où elle dit au père Perrin, sauf erreur, elle dit je me convertirai bien, mais le problème c'est que l'Église a gardé l'Ancien Testament. Donc elle est vraiment dans l'idée qu'il y a une coupure radicale entre une religion qui n'a pas encore coupé avec le partiel, le particulier, oui, le national, et une expérience qui s'est universalisée.
C'est la raison pour laquelle je disais origine juive et pas de confession juive. Parce qu'elle a un rapport à la foi, à sa judéité, qui est distant malgré tout.
Ah, plus que distant.
Qui l'a toujours été.
Oui, je pense qu'elle n'a pas eu d'éducation véritablement religieuse. Il y a des textes très courageux aujourd'hui, notamment le livre de Robert Chenavier explique cela parfaitement bien. Mais c'est vrai que sa découverte du christianisme la tourne contre la Bible. C'est une expérience
étonnante.
Levinas a écrit ce très beau texte, Simone Weil contre la Bible. Et peut-être qu'aujourd'hui, on doit lire Simone Weil pour son christianisme, montrer comment il est transposable dans l'amour humain et identifiable dans toutes les grandes doctrines qui opposent l'amour à la violence et à la mort.
Il y a la grâce, la pesanteur et la grâce, pour reprendre donc le titre de ce best-seller, La pensée du malheur.
Qui n'est pas un titre de Simone Weil. Hein,
qui n'est pas un titre de Simone Weil, mais l'essai a été donc très largement lu, commenté et a eu une influence considérable à sa publication. La pensée du malheur est indissociable de celle de la grâce, de l'amour, du beau, de la vérité, vous le disiez, Frédéric Worms. La notion de la beauté, ça n'est pas qu'une question esthétique. C'est d'abord ce que l'homme est capable de contempler. Elle évoque l'Iliade d'Homère, elle évoque la musique de Jean-Sébastien Bach, les chants grégoriens.
La beauté, c'est pour elle la preuve que l'ordre du monde produit du bien en nous. Mais le mystère de la beauté, c'est qu'il produit en nous cette joie très spécifique de la contemplation. Donc la beauté, chez elle, fait preuve. Elle fait deux fois preuve. Elle fait preuve de la structure nécessaire du monde et du bien qui est en elle, et donc d'une relation avec quelqu'un derrière.
Mais il y a la beauté du monde, l'expression elle semble totalement paradoxale, elle est née et elle a éprouvé dans sa chair les déchirures du monde, l'âge des extrêmes, celui des plus grandes violences et évidemment celle des deux grandes guerres mondiales, mais en fait le monde est beau, je la cite, dans Grâce et beauté. Comment peut-on écrire ces quelques mots-là, en fait, le monde est beau quand on est Simone Weil?
Elle dit même, je vais la citer de mémoire, elle dit « Seuls ceux qui ont fait l'expérience du malheur peuvent faire celle de la beauté du monde ». Parce qu'en réalité, nous nous contentons de demi-beauté. Et la seule beauté, c'est celle qui vient en effet dans le souvenir de l'expérience du malheur ou de ce que j'appellerais personnellement l'horreur. C'est-à-dire, c'est justement, nous n'apprécions la beauté que en sachant qu'elle a un contraire. Et sinon, nous pouvons nous contenter de l'agréable, du joli, en quelque sorte, de ce qui est sympathique, de ce qui est joli. Et nous ne faisons pas la différence entre une cantate de Jean-Sébastien Bach et une musique à la mode. Nous ne faisons pas la différence. Elle est très radicale, hein. La beauté, c'est très rare. Il y a un poème ou deux qui résistent. Il y a Homère, il y a François Villon. Tout le reste est séduction, et même séduction qui nous détourne. Donc c'est une exigence absolue. L'Iliade ou le poème de la force, par exemple, c'est la grandeur d'Homère.
Alors c'est le paradoxe.
C'est d'avoir montré, voilà, que dans la guerre, il y a l'horreur.
Mais elle, qui est si critique vis-à-vis de la guerre, elle trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le plus grand poème jamais écrit sur la guerre, à savoir l'Iliade et la guerre de Troie.
Oui, parce que l'Iliade décrit la guerre comme elle est et le malheur des humains dans la guerre comme il est. Puisque le malheur est une expérience humaine qui a un contraire, et donc finalement il y a un peu de lumière. Et parfois dans l'Iliade, dit-elle, entre l'expérience du malheur, il y a aussi l'expérience de la joie, il y a l'amour humain, il y a l'épouse qui attend son mari qui lui a préparé un bain, elle dit il n'y aura pas beaucoup de bains chauds, mais quand même il y a l'amour.
Question au professeur, et au directeur d'une école, même si c'est la plus prestigieuse, l'école normale supérieure, elle a ces mots. D'une manière générale, toute instruction dans les villages devrait avoir pour objet essentiel d'augmenter la sensibilité à la beauté du monde, à la beauté de la nature. Explication.
Alors, explication en deux temps. Il y a une chose à laquelle je résiste dans cette phrase, c'est justement dans les villages. C'est-à-dire, elle pense qu'il y a deux formes d'éducation. Je le relisais dans l'enracinement, justement. Pour répondre au déracinement ouvrier et paysan, il faut des formes spécifiques. Donc, dans les villages, ça veut dire on a une caricature du paysan qui ne peut plus contempler le paysage parce que son travail lui empêcherait la contemplation. Or, il faut précisément... Le crime absolu, c'est que dans les villages qui ont la chance d'être dans la beauté de la nature, on aliène les paysans au point qu'ils manquent la beauté du paysage. Donc là, il faut les éduquer à cela. Après, dans les écoles, y compris dans les villages, il faut apprendre aussi un peu de mathématiques, quelques poèmes d'une beauté absolue, quelques phrases qui nous remettent en contact avec la vérité de l'expérience humaine, donc un peu de philosophie. Et donc, je pense qu'elle ne renie pas du tout sa scolarité à l'école normale supérieure, hein, où elle a été, après avoir été élève d'Alain. Mais je pense qu'il faut d'un peu de tout partout. Il faut des mathématiques pures, de la vérité pure et de la beauté pure dans toutes les écoles, les plus supérieures et les plus supposées inférieures. Mais il faut un peu du pur absolu partout. Et là, elle a absolument raison. C'est la petite graine.
Merci Frédéric Worms. À suivre, Simone Veil, la justice.